BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Il y a deux semaines, nous avions sur ce plateau le représentant permanent de la France auprès de l'Union Européenne et puis aussi Sylvie Goulard, eurodéputée libérale-démocrate. Et on s'était posé cette question, quelle influence de la France ici à Bruxelles? Et on avait eu cette idée d'aller à la rencontre des acteurs français ici dans le réacteur européen finalement. Bonjour Pervenche Berès.
Bonjour.
Alors, en préparant cette émission, on s'est posé une question. On s'est dit, tiens, parmi ces Français qui ont choisi l'Europe, est-ce qu'il y a un ou une eurodéputée qui, pour rien au monde, quitterait Bruxelles ou Strasbourg pour aller à l'Assemblée nationale? On a eu du mal. On vous a trouvé, vous. Est-ce que vous, Pervenche Berès, si on vous proposait l'Assemblée nationale, vous y iriez?
Non.
Non. Vous restez députée européenne.
Je crois, enfin, ma carrière montre que je reste députée européenne sans aucun doute.
Oui. Cinquième mandat ici au Parlement européen et avant, vous avez fait Sciences Po et puis vous aviez démarré votre carrière en tant qu'administratrice à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même
en charge des affaires européennes.
En charge des affaires européennes, décidément. Voilà, on parle de ces Français qui ont choisi l'Europe aujourd'hui. Bonjour Isabelle Montoya.
Bonjour.
Alors vous êtes au Parlement européen, vous êtes administratrice au sein de la commission des affaires étrangères. Alors vous avez fait Sciences Po, vous avez fait le Collège de Bruges avec mention très bien, vous auriez pu faire tout ce que vous vouliez. Vous vouliez travailler pour l'Europe.
Tout à fait, oui, oui.
Pourquoi ?
Depuis mon plus jeune âge, j'étais dans un milieu international et pour moi, l'unité de mesure, c'était l'international. Donc
d'accord. Pas encore tout à fait les 28 à l'époque.
Pas encore les
15 non plus. On vous fera pas l'injure de savoir jusqu'où ça remonte. Bonjour Jonathan Clauvin.
Bonjour.
Isabelle Montoya, elle a 19 ans de Parlement européen à son actif. Vous avez un an de direction générale. Concurrence à la Commission européenne et quand on regarde votre parcours, vous auriez pu faire ce que vous vouliez aussi, un King's College, Paris 1, Panthéon Sorbonne, Sciences Po, Georgetown. Pourquoi vous avez choisi la Commission européenne ?
J'avais toujours voulu travailler pour l'Europe en fait. Pas depuis que je suis tout petit, mais depuis un certain temps. Ouais.
Quand vous étiez tout petit, vous vouliez faire quoi ?
Je voulais être pilote de ligne.
Un pilote de ligne, bon, bah finalement, c'est mieux la Commission européenne ?
On ne saura jamais.
Bon, bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Alors vous, Clément Beaune, vous n'êtes pas au cœur du réacteur européen à proprement parler, mais vous êtes le conseiller Europe d'un ministre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment en France, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie, du numérique. Alors vous, votre parcours, c'est aussi, vous êtes passé notamment par Sciences Po, l'ENA.
Le Collège d'Europe.
Et Collège d'Europe à Bruges et puis aussi en Pologne. Et vous vouliez absolument travailler sur les questions européennes ?
Oui, moi je trouvais que c'était très intéressant d'essayer de concilier les deux, c'est-à-dire de parler d'Europe, dont on parle peu ou dont on parle mal dans les États membres, depuis une capitale nationale et une administration nationale. Je pense que c'est assez complémentaire de l'approche que ceux qui m'entourent ont défendu et on partage, à mon avis, le même goût pour cette coopération un peu unique et historique.
Voilà, c'est ça. Autour de la table, on a donc des représentants au sein du Parlement européen. Donc on a le Parlement, on a la Commission et on a le Conseil, à savoir les ministres. Ces Français qui ont choisi l'Europe, demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500 ME. Alors, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez en choisissant de travailler pour l'Europe, Isabelle Montoya ? Est-ce que vous êtes épanouie en tant que fonctionnaire européen aujourd'hui ?
Bien sûr, vraiment, tout à
d'accord.
Fait.
D'accord. Est-ce que vous pourriez le dire le contraire ?
Que je ne suis pas épanouie ?
Oui.
Non, je ne peux pas dire. La question, elle est différente, en fait. Je ne peux pas dire que tout est parfait, mais je suis tout à fait épanouie. Et puis, quant aux attentes, mais très difficile de dire si ce que je vis aujourd'hui répondait à mes attentes, puisque, en fait, je n'avais pas des attentes très, très précises en venant travailler au Parlement, à part de travailler pour une institution à laquelle j'adhérais.
Alors, vos études, vous avez étudié dans 4 pays, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Belgique. Vous vous destiniez à une carrière européenne. Vous avez travaillé pour la CETA, dans le tabac, et puis pour Areva avant de rejoindre le Parlement européen.
Oui, tout à fait. Oui, c'est des questions d'opportunités, de rencontres. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans deux grandes entreprises françaises, de travailler avec des gens qui étaient très intéressants, et puis ensuite de poursuivre mes études universitaires à l'étranger et de poursuivre vers une carrière européenne.
Alors on va faire le tour de cette manière. Donc vous êtes au sein de la commission des affaires étrangères ici au Parlement. Vous occupez les questions sensibles, les migrants et le terrorisme. Alors maintenant, cette question, pourquoi le Parlement européen? Parce qu'en matière d'affaires étrangères, le Parlement européen, on ne peut pas dire qu'il ait un poids. Déjà, la Commission européenne n'a pas un poids énorme. La chef de la diplomatie européenne a fait ce qu'elle peut, mais c'est difficile. Mais alors, au Parlement européen, quels sont vos pouvoirs?
Ce que je réponds dans ces cas-là aux gens qui me posent la question, il y en a beaucoup, c'est que pour beaucoup de pays, parler, c'est déjà agir. Et ça, on l'oublie énormément. Et moi, ce qui m'a fait choisir une institution comme le Parlement européen, c'est justement la question politique de la résolution des conflits par le dialogue et par le dialogue politique.
Pierre Vangeberès, expliquez-nous. Pourquoi vous êtes à contre-courant? Pourquoi tous les autres, ils préfèrent être à l'Assemblée nationale et vous, vous préférez le Parlement européen? On a coutume de dire que le Parlement européen, c'est plus important que l'Assemblée nationale. Ça, a priori, c'est sur le papier. Mais réellement, tous les responsables politiques français, ils rêvent que la scène française.
Bon, chacun son parcours, hein, et je crois que si on veut avoir une bonne influence française, il faut avoir des bons députés à l'Assemblée nationale et des députés qui soient aussi engagés ici au Parlement européen. Et moi, je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui ont choisi de faire une carrière sur la scène politique nationale, mais je crois que c'est utile, y compris à mon parti, d'avoir des gens qui ont investi la scène européenne, et je me réjouis que de plus en plus de jeunes, lorsqu'ils arrivent ici au Parlement européen, comprennent l'importance de cette institution. C'est un Parlement un peu particulier par rapport, si on compare le Parlement européen à l'Assemblée nationale. Mmh. Et c'est un Parlement où on ne peut pas avoir raison tout seul. Et où la base de la construction de la décision, elle est forcément collective.
Qu'est-ce que ça apporte, le fait que ce soit votre cinquième mandat? Les Allemands ont coutume de dire qu'il faut que chaque député allemand travaille sur trois mandats. Un premier mandat de 5 ans pour apprendre, un deuxième mandat pour vraiment faire le boulot et le troisième mandat pour transmettre aux petits jeunes qui arrivent. Vous, à votre cinquième mandat, vous êtes à quel stade visiblement à ce niveau-là? Et la question que je voulais vous poser, vous avez été président de la commission des affaires économiques et monétaires, président de la commission de l'emploi, vous êtes chef de file de la délégation socialiste française. Quelle valeur ça a ici au Parlement européen d'avoir tout vu, tout connu en cinq mandats?
Bah, il faut le demander à mes collègues, mais je crois que je fais partie de ceux qui, dans cette maison, peuvent contribuer à l'élaboration d'une décision et qui peuvent porter des projets sur lesquels l'influence de la France est peut-être utile. Je vous prends simplement l'exemple du texte sur lequel je suis en train de travailler, qui est un rapport que je co-écris avec un député du PPE allemand, donc un membre de la CDU, sur l'hypothèse d'un budget de la zone euro. Voilà. Il me semble que si on arrive à mettre sur la table quelques propositions, à un moment, on voit bien que cette question devrait entre la France et l'Allemagne, où on attend beaucoup une proposition peut-être entre la France et l'Allemagne, ben, dès que ici, au Parlement européen, on puisse être un peu comme des éclaireurs dans ce chemin, je crois que c'est une œuvre utile.
Alors ça, c'est la partie, Pierre Vangeberès, c'est la partie de Clément Beaune du cabinet d'Emmanuel Macron, parce que vous occupez des questions européennes, mais aussi des questions du budget, ou en tout cas vous êtes occupé dans votre parcours des questions du budget. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est vous qui conseillez notamment Emmanuel Macron quand il dit que si on fait rien aujourd'hui, l'Europe va disparaître et autres? Et est-ce que du coup, vous planchez? On a l'impression que votre chef, c'est un des rares dans le gouvernement français qui a compris qu'il fallait réfléchir sur les questions européennes. Il tend souvent des perches à ses homologues en Allemagne. Est-ce que vous participez activement à cette réflexion-là?
Oui, alors pour être convaincu et pour faire ce travail, il n'a pas besoin de moi, mais pour le documenter, essayer de prendre des initiatives, de les construire aussi, parce que il faut donner des impulsions, et puis ensuite il faut beaucoup travailler avec les gens. On a un dossier en ce moment, vous parliez du budget, c'est un des dossiers qui nous intéresse, mais il y a un dossier comme celui de la crise de l'acier en Europe. On travaille énormément, quotidiennement, avec les autres partenaires, C'est un travail qu'on fait avec les institutions bruxelloises, mais aussi depuis chaque capitale, pour essayer de convaincre. C'est un travail passionnant. C'est un sujet typiquement sur lequel la réponse ne peut être qu'européenne. Mmh. Et le travail de conviction doit se faire auprès de chacune des institutions.
Et vous, votre job en tant que conseiller Europe, c'est quoi? C'est de parler avec les homologues européens? Vous préparez les réunions du conseil? Compétitivité à Bruxelles?
Oui, notamment, c'est de préparer les entretiens bilatéraux avec les autres ministres, et puis c'est de donner des idées, des initiatives politiques avec des parlementaires européens, des membres de la Commission. Donc c'est à la fois un travail d'idées techniques et puis d'idées politiques, pardon, et puis de techniques pour les mettre en œuvre.
Jonathan Clovin, sur quoi vous travaillez? Vous travaillez avec Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, celle qui, dit-on, a inspiré la série Borgen, la série politique danoise. Vous travaillez avec elle au quotidien?
Non, pas au quotidien, non, ça m'arrive de la croiser.
Vous travaillez sur quel dossier? Vous pouvez en parler?
Je travaille sur le contrôle des concentrations, donc les fusions-acquisitions.
Fusions-acquisitions, d'accord.
Au regard de leur compatibilité avec le droit de la concurrence de l'Union européenne.
D'accord. Est-ce que c'est important d'avoir des Français dans cette DG concurrence?
Je pense que c'est important d'avoir des gens des 28 États membres. C'est pas spécialement parce qu'on est français qu'on a quelque chose d'ajouter. Chacun vient avec ses compétences et attiré à la DG Concurrence pour ses compétences, pas pour sa nationalité.
D'accord. Et pour faire écho à ce qu'on se disait il y a deux semaines avec Pierre Sellal, est-ce que vous êtes en relation étroite avec la représentation permanente française? Est-ce que vous, qui êtes tous au cœur du réacteur, est-ce que vous travaillez ensemble, les Français, à Bruxelles?
Ça dépend des dossiers, oui. En fait, il y a des relations qui sont assez régulières, qui sont établies avec toutes les représentations permanentes. Mmh. C'est aussi non seulement un marronnier, mais cette histoire de l'influence française à Bruxelles, mais aussi une expression de l'angoisse française par rapport à cette question. Surtout qu'on se compare généralement avec les Britanniques, par exemple. Donc en fait, c'est le fait de toutes les représentations permanentes. Et moi, mon expérience, c'est que les représentations permanentes des petits pays ont beaucoup plus de, sont plus actifs que les grands États membres, par exemple. Donc ça dépend un peu des dossiers, mais comme disait Jonathan, excuse-moi, en fait ça n'est pas une condition sine qua non, quoi.
Voilà, ce sont des Français qui ont choisi l'Europe et on discute avec eux dans 500 millions d'Européens aujourd'hui. À tout de suite après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Oui, depuis le Parlement européen à Bruxelles, on s'intéresse aujourd'hui à ces Français qui ont choisi l'Europe. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de Français parmi la population qui souhaiteraient quitter le navire européen. Là, évidemment, on est presque à un mois du référendum au Royaume-Uni. Et ici, autour de cette table, eh bien, on a des Français qui ont l'Europe en eux. Et c'est intéressant, du coup, de parler avec eux. On a avec nous Pervenche Berès, chef de file des socialistes français au Parlement européen. Isabelle Montoya, qui est administratrice au sein de la Commission Affaires étrangères du Parlement européen. On a Clément Beaune, qui est conseiller Europe d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, et Jonathan Clovin, qui est administrateur à la DG Concurrence, à la Commission européenne. Voilà, on a fait le tour, on a toutes les institutions ici. Petite question, d'abord je disais, j'avais posé cette question à Isabelle Montoya tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu techno finalement? Je me tourne vers vous, monsieur Jonathan Clovin. Est-ce que c'est techno la Commission européenne? Est-ce que aujourd'hui vous êtes un eurocrate?
On exerce le mandat qui nous est donné. C'est souvent des sujets assez techniques, surtout, enfin, comme dans plein de DG, dans ma DG, c'est des sujets assez techniques. Donc oui, c'est technique. C'est eurocratique.
Quand vous rentrez chez vous, votre famille, à Noël, pendant les fêtes, etc., est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites?
Ceux qui s'y intéressent, oui, ils comprennent. Oui.
D'accord.
Oui.
Bon, votre boulangère, est-ce qu'elle comprend ce que vous faites?
Ça dépend comment on lui explique, mais oui, enfin, si tout le monde peut comprendre ce qu'on fait.
Comment vous lui expliquez?
Bah, je lui dis que je contrôle quand il y a des opérations sur le marché pour éviter qu'on crée du pouvoir qui réduirait le choix ou qui serait nocif pour les consommateurs ou pour les autres entreprises sur le marché européen.
Isabelle Montoya, comment est-ce que vous expliquez aux membres de votre famille ici j'ai l'impression, par exemple, à Bruxelles, tout le monde dit on travaille pour l'Europe ou pour le marché commun, et ça a évolué pour les communautés, mais en règle générale c'est la Commission, le Parlement c'est pas vraiment sur les écrans radars des gens.
Je crois pas, non. Je pense que le Parlement est de plus en plus sur les écrans radars. C'est une institution dont on parle de plus en plus, qui est impliquée dans beaucoup de législations très importantes au niveau européen. On a des membres proéminents. On a un président du Parlement qui est assez présent dans les médias, y compris en France, y compris dans des médias plutôt...
le petit journal de Canal+.
Voilà, qu'elle a qualifié de jeune. Moi, ce que j'ai dit à ma famille quand je parle de mon métier, d'abord, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre tous les métiers. Je pense que... Non, mais c'est vrai. Mon frère a travaillé pour une entreprise de télécommunications. J'étais incapable de comprendre ce qu'il faisait exactement. Et il faut vraiment avoir une éducation civique plus poussée pour comprendre le fonctionnement de la prise de décision politique au niveau national.
Pierre-Ange Bérez, vous avez le sentiment que vos électeurs, vous, y comprennent ce que vous faites ou pas ?
Oh oui, vous savez, quand on crée une commission d'enquête à la suite des Panama Papers, ils comprennent très bien ce dont on parle.
Hein. Ouais. Quand
on se mobilise pour sur l'affaire, par exemple, du conflit des minerais, qui est fait que le Parlement européen dit au Conseil, maintenant ça suffit d'acheter des minerais dans des régions où ça provoque des conflits, où on exploite des enfants. Bon, c'est des choses, je crois qu'ils comprennent très bien. Alors, je me retourne vers vous, Yann Anthony Dogues. Comment est-ce qu'on parle d'Europe dans les médias en France ? C'est aussi une des...
Comment ? Je ne sais pas, mais pas assez, ça c'est une certitude.
Voilà. Là-dessus, je pense que vous et nous, nous sommes exactement sur le même bateau. C'est-à-dire que c'est très facile de dire que les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Mais quand, vous avez dit tout à l'heure, on va noter les ministres en fonction de leur présence. Mais enfin, franchement, c'est très important. Si un ministre est là, est nommé pour... exercer une fonction, il doit l'exercer et on doit contrôler qu'il l'exerce. Mais c'est pas le seul sujet. Le sujet intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on porte comme proposition, où est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on défend comme idée. C'est la politique qu'on met en œuvre.
Bien sûr. Alors j'ai pas dit juste pour corriger ça. J'ai pas dit on va les noter. Ils sont régulièrement notés. Justement, je critiquais ça parce que au niveau du ressenti, c'était pas la même chose.
Regardez.
Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a une course à l'échalote parmi les eurodéputés, savoir lequel va sortir le plus de communiqués, va être plus présent, etc. C'est pas forcément ceux qui sont le plus efficaces ou le plus influents au sein de l'institution. Clément Beaune, donc vous êtes dans un cabinet ministériel, celui d'Emmanuel Macron, et c'est celui qui a la plus forte coloration européenne et qui essaye de faire des propositions. Il parle d'une réforme de traité dans les deux ans, etc. Est-ce qu'il a le sentiment que c'est porteur, ça, politiquement, vous, dans votre réflexion, est-ce que vous dites il faut miser sur l'Europe, ou bien est-ce que c'est pour donner une stature, finalement, au responsable politique qu'il est ?
Non, c'est à mon avis porteur au sens où ça porte beaucoup d'enjeux. Je reviens juste sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parle d'eurocrate, mais on parle aussi de technocrate au niveau national. Et la responsabilité, elle est médiatique. Elle est aussi dans les capitales. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme d'engagement sur les sujets européens, parce que c'est parce qu'on a beaucoup parlé de Bruxelles, de la Commission, à peine du Parlement européen, qu'on a créé ce sentiment parfois de distance ou de complexité. Mmh. Il existe, il ne faut pas se cacher que l'Europe est parfois trop lente, trop technocratique, comme le sont parfois nos administrations aussi au niveau national. Donc il faut montrer que c'est politique, je prends juste un ou deux exemples.
Le parfois est bienvenu.
Oui, il faut l'assumer. Les sujets sont compliqués en soi, mais on voit bien que sur un sujet comme le changement climatique, comme la sidérurgie que j'évoquais, comme la crise des migrants, les réponses ne peuvent être qu'européennes. Et je pense que beaucoup de gens ont l'intuition, ils font des reproches à l'Europe.
La lutte contre le terrorisme, la coopération entre les services de renseignement.
Et si les gens souvent reprochent à l'Europe aussi cette distance et cette complexité, c'est parce qu'ils attendent beaucoup d'elle, finalement.
On va faire un petit tour de table sur cette question. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Tous les gens que je croise ici à Bruxelles, en général, on demande comment ça va, et là, tout le monde dit « l'Europe n'est pas au top ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous êtes à Paris, Clément Beaune, mais qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du projet européen ?
Le projet européen est dans un état difficile. Faut pas faire de méthode couée en disant que les gens n'ont pas compris, qu'au fond tout va bien. On va de crise en crise dans l'impression qu'on donne de l'Europe. On a parlé de Grexit l'an dernier, on a un référendum, on parle de Brexit aujourd'hui, de crise des migrants, etc. Mais c'est justement parce qu'on est dans une période, et moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix au niveau national, où ça ne va pas de manière merveilleuse et spontanée, qu'il faut essayer de s'engager. Et au lieu de dire l'Europe c'est fini, l'Europe c'est trop compliqué, l'Europe ça va pas, il faut montrer que tous les défis qui intéressent les gens dans leur vie quotidienne. Hein. Le terrorisme, la fraude fiscale, ça interpelle évidemment les gens. Les emplois dans la sidérurgie, c'est européen.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'initiatives qui sortent de Bruxelles en ce moment ?
Si on se pose la question de pourquoi il n'y en a pas assez ou pourquoi ce n'est pas assez ambitieux, par exemple sur des sujets comme la zone euro, c'est parce qu'on a collectivement un peu gelé le débat européen, parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on en parle de manière très négative et parce qu'on a l'impression que souvent, ce qui se passe de concret et de positif, ça se passe dans nos pays, et puis ce qui se passe de compliqué et de pas très positif, ça se passe plutôt à Bruxelles.
Jonathan Clauvin de la DG Concurrence de la Commission européenne, l'Europe elle est comment là en ce moment ?
Mais non, mais si c'était tout parfait, génial et que c'était fini, j'aurais pas besoin d'aller au boulot tous les jours. On est là pour ça, on est là pour faire avancer le projet, et si on a choisi cette carrière, c'est parce qu'on croit que c'est la bonne direction. Que ça aide les gens au jour le jour.
Attention, question piège. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que l'Europe, potentiellement, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut être terminé ? Ça, personne ne se disait ça il y a 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites ça ?
Mais je pense que c'est effectivement, c'est peut-être un peu une peur à la mode, on va dire, mais c'était peut-être justement une erreur il y a 10 ans de penser que tout était acquis et que ça allait être. Enfin, l'histoire européenne, quand on prend un peu de recul. Et qu'on regarde un peu à long terme, prouve que rien n'est stable et rien n'est fait. Il faut être conscient, il faut se battre pour ça.
Isabelle Montoya, l'Europe.
Je suis d'accord avec ce que dit Jonathan, évidemment, un peu moins avec ce que dit mon voisin de gauche. En fait, je trouve que justement, on est dans une situation très paradoxale parce qu'au plan international, il y a énormément de difficultés, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de la politique, de la sécurité, etc. Par contre, ce que je note, c'est que en tant que praticienne des institutions, c'est qu'on n'a jamais été dans un moment où il y avait une meilleure collaboration entre la Commission, le Conseil et le Parlement, mais que les citoyens demandent plus d'Europe dans des domaines justement qui sont restés de l'ordre régalien. Donc la crise grecque, c'est un domaine où en fait ce sont les États membres qui décident, la migration c'est la même chose, la sécurité, le contre-terrorisme, la lutte contre la radicalisation, donc ce sont justement des domaines dans lesquels les citoyens ont l'impression que la solution doit être au niveau européen. On a un problème véritablement de mise en œuvre à la fois des décisions qui sont prises et de prise de décisions politiques.
L'Europe ne délivre pas, en gros, sur ces sujets. Père Vange Berès.
D'abord, je voudrais revenir sur la question de la concurrence, parce que je trouve que justement, dans le domaine de la concurrence, avec la nouvelle commissaire, Margrethe Vestager, on a vu que l'Union, à l'échelle de l'Europe, on s'attaquait à des géants face auxquels les États membres ne peuvent pas beaucoup de choses et où il y a une question qui interpelle nos concitoyens. La nouvelle commissaire, Madame Vestager, s'est attaquée à l'affaire de Google, à l'affaire de McDonald's. Et donc là, il y a des exemples très concrets où, à l'échelle européenne, on peut faire bouger les choses. Sur l'état de l'Europe, écoutez, moi je suis arrivée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a très longtemps au Parlement européen, et je suis arrivée avec une conviction européenne absolument chevillée au corps, qui s'est construite bien avant, au milieu des années 70, lorsque en 75, j'étais jeune étudiante, ma conscience politique se construisait, et c'était avant la chute du mur de Berlin, il y avait ce processus qu'on appelait la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'idée qu'en se parlant, on arrivait à se mettre d'accord. Et l'image que donne l'Europe aujourd'hui n'est sûrement pas celle auquel je pensais. Mais
est-ce que vous vous dites aujourd'hui, par Vange Berès, que potentiellement dans 10 ans ça pourrait être terminé?
Mais vous savez, quand
c'est ce que dit Emmanuel Macron.
Quand je suis née, je n'avais jamais imaginé que l'Union soviétique pouvait disparaître.
D'accord.
Mais ce que je veux ajouter, c'est que vous ne pouvez pas mettre en cause que la situation de l'Union européenne. Regardez l'état des États membres. Les États membres n'ont pas une très grande confiance en eux-mêmes et une très grande visibilité de leur avenir. Et c'est ça aussi qui explique l'état de l'Europe.
Père Vange Berès, chef de file des socialistes français au Parlement européen. Clément Beaune, conseiller Europe d'Emmanuel Macron. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Isabelle Montoya, administratrice au sein de la Commission Affaires étrangères du Parlement européen, d'être venue partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup Jonathan Clauvin, donc optimiste quand même, Jonathan Clauvin, et qui, alors pas demain peut-être, mais en tout cas la semaine prochaine, se lèvera pour retourner travailler au Berlaymont, la DG Concurrence. Vous êtes au Berlaymont, au centre?
Non, Tourmadou.
Vous êtes Tourmadou, d'accord. C'est un petit peu plus loin dans Bruxelles. Jonathan, Isabelle, merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve juste après le journal. Après avoir parlé de ces Français qui ont choisi l'Europe, on va parler de ces Britanniques qui ont choisi l'Europe et qui, aujourd'hui, pour certains, s'en mordent les doigts. Tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet+. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, on a parlé de ces Français qui ont choisi l'Europe et qui s'y tiennent. On a toujours avec nous Pervenche Berès, eurodéputée socialiste française, chef de file des socialistes au Parlement européen, cinquième mandat. Pervenche Berès, on s'est demandé parmi les eurodéputés, lequel ne s'ennuie pas quand il est au Parlement, à Bruxelles ou à Strasbourg, lequel ne veut pas absolument aller à l'Assemblée nationale. Il y en a qui travaillent ici, mais qui tout de suite ferait leur valise et repartirait à Paris. C'est pas le cas de Pervenche Berès, c'est pour ça qu'elle est avec nous. Merci Pervenche. Avec nous également Clément Beaune, conseiller Europe d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en charge dans son cabinet des affaires européennes, et nous a rejoint notre collègue de Politico. Bonjour Nicolas Hurst.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Vous venez de parler des Français qui ont choisi l'Europe.
Ouais.
Je voulais parler d'un article de Politico par rapport aux Britanniques qui ont choisi l'Europe.
Les Britanniques qui ont choisi l'Europe.
Mettez-vous à la place des fonctionnaires britanniques le 24 juin, ouais, au cas où les Anglais, la population anglaise, votent pour quitter l'Europe.
D'accord.
Que va faire ces fonctionnaires britanniques qui ont par contre choisi l'Europe, qui ont voulu faire leur carrière ici, qui ont fait leur vie ici à Bruxelles? Le problème pour eux, c'est qu'on ne sait pas très bien pour le moment ce qui va en passer.
Londres, où Eric Scholl, le grand patron de la rédaction de Courrier International, nous emmènera également dans le cadre de sa revue de presse européenne. Il nous emmènera également en Espagne, en Allemagne et en Suisse. Voilà, demandez le programme de cette deuxième partie de 500 millions d'Européens.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Alors, Nicolas Hurst, qui est à la fois grand breton et un peu français, parce que vous êtes doublement insulaire, vous êtes à la fois britannique et avec des origines corses également.
C'est vrai, anglo-corse.
Anglo-corse, on va dire anglo-corse. Le Brexit et les fonctionnaires, quel est le problème?
Il reste encore quelques mois avant le référendum, ouais, sur si la Grande-Bretagne doit rester en Europe.
Ouais.
À moi. Le problème pour beaucoup de fonctionnaires, c'est qu'ils ne savent pas très bien ce qui va leur arriver après. Parce que jusqu'à maintenant, et les institutions et le gouvernement britannique n'ont pas voulu spéculer sur exactement ce qui se passerait dans l'hypothèse que la Grande-Bretagne quitte l'Europe.
Mmh.
Mais ils ont aussi beaucoup d'autres problèmes. Parmi ces problèmes est la question de que passerait avec les enfants qu'ils ont aux écoles européennes.
D'accord.
Parce que tous les fonctionnaires des institutions européennes ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles européennes. Il y a 20 000 étudiants dans ces écoles européennes à travers l'Europe, avec 5 000 ici à Bruxelles.
C'est quoi une école européenne? On connaît les écoles bilingues.
C'est une école qui est offerte pour les fonctionnaires où les élèves peuvent étudier dans leur langue maternelle.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on peut étudier en estonien ou en finlandais ou en français, et tout le curriculum qui correspond à ce pays.
Et alors pourquoi est-ce que les parents britanniques sont inquiets finalement?
Parce qu'ils se disent, si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, ne contribue plus au système des écoles européennes, est-ce que les enfants britanniques vont pouvoir continuer d'aller aux écoles européennes?
Et là on n'a toujours pas de réponse, là on est vraiment dans les coulisses de l'Europe. Et on n'a pas la réponse.
Et on n'en parle pas.
D'accord.
L'incertitude pleine, et vous imaginez que pour ces enfants qui ont fait plusieurs années d'études dans les écoles européennes, qui en se préparent pour l'université, qu'ils ont des amis ici, ça met quand même une grande doute au-dessus de leur futur et leur tête.
Et les autres parents, ça va, ils sont sereins ou...
Non, les autres parents également sont
des autres nationalités
sont très inquiets, parce que ce qu'il y a dans les écoles européennes qui est intéressante et dont parle cet article de Politico, c'est que il y a 5000 élèves dans les écoles européennes dans la section anglaise. C'est-à-dire qu'il y a 5000 étudiants qui font leurs cours en anglais, mais il y a juste 1500 anglais parmi eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui veulent que leur enfant suivent un parcours anglais dans les écoles européennes. Et le problème, c'est que si l'Angleterre quitte l'Union européenne, il y aura peut-être plus de profs britanniques dans ces écoles. Il y aura donc peut-être plus de cours en anglais. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passerait avec ces étudiants là.
C'est ce que nous disait aussi Eric Scholl la semaine dernière dans sa revue de presse, où il disait qu'en cas de Brexit, ce serait quand même un comble, parce que la langue dominante ici, en tout cas dans les affaires européennes, c'est l'anglais. Ce serait un comble que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Et finalement, il n'y a que deux autres pays, dont Malte, qui ont pour langue officielle l'anglais. Pervenche Berès, ça c'est vraiment un souci, ou ça c'est un parmi 50 questions qui vont se poser en cas de Brexit?
Oui,
encore,
voyez,
quand je dis 50,
vous voyez l'ampleur des problèmes qui vont se poser, hein, ouais. Puisque celui qui vient d'être évoqué est un problème parmi beaucoup beaucoup d'autres. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est très difficile d'évoquer aucun de ces sujets-là avant le référendum. En revanche, je crois que pour nous, les non-britanniques, quelle que soit l'issue de ce référendum, il faut nous préparer à ce qui se passe après. Parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on s'occupe des Britanniques, qu'ils restent ou qu'ils sortent. Moi, je souhaite ardemment qu'ils restent. Mais je trouve qu'on passe trop de temps...
C'est une perte de temps pour vous, là, ce Brexit,
non, pas du
ce
tout.
Débat
enfin, si vous voulez, dans l'État où est l'Europe...
Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose, quoi. C'est ça.
Et
que
voilà. Et je ne voudrais pas que dans les deux ans qui suivent, on continue à ne se préoccuper que d'une chose, qui est de savoir comment est-ce qu'on aménage le nouveau statut des Britanniques à l'intérieur ou à l'extérieur. Et pour ça, ça suppose que les autres se déterminent par eux-mêmes, et y compris nous-mêmes comme Français. Je pense qu'on a une vraie responsabilité là.
Clément ?
Moi, je suis un Français qui a choisi l'Europe, et en plus, j'ai cette particularité de beaucoup aimer le Royaume-Uni. Alors, du coup, je souhaite ardemment qu'il reste. Mais c'est vrai que je rejoins Pervenche Berès. Ce qui est très important, on a parlé de nombreuses crises qu'on a à traiter, c'est qu'on arrive à passer à autre chose. Donc, le meilleur scénario, c'est une victoire du camp du Remain de l'Europe au référendum britannique, et puis qu'ensuite on se préoccupe d'intégration européenne, de projet européen.
Le fameux Remain, parce que donc il y a Brexit pour British Exit et Remain pour British Remain, ça veut dire en gros rester. Nicolas Hurst, quel est l'état d'esprit au niveau de la communauté britannique ici à Bruxelles? On a parlé tout à l'heure des Français par rapport au projet européen. Il y a une vraie inquiétude?
Oui, il y a effectivement une vraie inquiétude, parce que la communauté britannique ici ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passerait dans le cas d'un Brexit. Je pense qu'aussi l'espoir...
Ils voteraient tous pour le Remain, les Britanniques qui sont ici. Est-ce qu'ils sont victimes du syndrome de Stockholm? Est-ce que quand on est britannique et qu'on vient à Bruxelles, on est forcément pro-européen ou on le devient?
Non, je pense qu'il y a une grosse majorité qui voterait pour rester.
Ouais.
Mais ça n'exclut pas qu'il y en ait... quand même parmi la communauté qui...
Je suis pas sûr que Nicole Farage ici va voter.
Oui, alors si on parle de Nigel Farage,
le président bruxellois,
le souverainisme, donc l'état d'esprit.
Mais je pense que pour toute la communauté, ce qui est important, c'est qu'ils espéraient que ce référendum mette fin à la question pour une génération, pour plusieurs générations. Et le problème, c'est que pour le moment, si le résultat n'est pas clair, ça ne mettra pas fin à la question.
Ce sera comme l'Écosse.
Voilà.
Voilà. Et donc finalement, on sera reparti pour encore un référendum, peut-être 5, 10, 15 ans après, mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
Exactement.
Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Oh, mais bienvenue à Bruxelles, Eric Scholl.
Bonjour, Yann-Anthony.
Comment allez-vous?
Mais très bien, très très bien.
On va aller en Allemagne avec vous, entre Berlin et Airbnb. Apparemment, c'est fini, parce que depuis le 1er mai, dans la capitale allemande, louer son appartement à des touristes est interdit, et la ville cherche à protéger son parc locatif. Mais les promoteurs, évidemment, ils sont affligés.
Ben voilà, et Handelsblatt raconte bien donc ce qui est en train de se passer. C'est une vraie guerre entre Airbnb et la ville, et en réalité le Sénat, puisque c'est le Sénat de Berlin qui a pris cette décision. Et évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour les promoteurs qui considèrent que finalement c'est une attaque en règle contre la destination Berlin, et qui, d'autant que cette décision va être très sévèrement sanctionnée pour ceux qui voudraient contrevenir, puisqu'on prévoit des amendes de 100 000 euros. Et attendez, tenez-vous bien, Yann-Anthony, le Sénat a lancé un site où des voisins peuvent dénoncer anonymement des appartements dont l'utilisation est détournée, c'est ce qu'écrit l'Handelsblatt.
100 000 euros. Vous pratiquez Airbnb, certains autour de la table ou pas?
Comme client, parfois.
Comme client, d'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette interdiction en Allemagne?
Le modèle Airbnb pose un problème, y compris de ressources pour l'État.
Fiscal.
C'est un modèle économique nouveau auquel nos règles jusqu'à présent ne sont pas adaptées. Et Berlin prend la décision qu'il veut, mais je pense qu'il y a un moment où, sur une question comme ça, on a besoin de réfléchir en tant qu'Européens. Je sais qu'il y a des réseaux de villes qui essayent d'élaborer des propositions communes, mais je pense que c'est un symptôme d'une nouvelle économie par rapport à laquelle nos règles ne sont pas adaptées en termes social ou en termes fiscal.
Immigration, Eric, avec Ceuta et Melilla, la barrière espagnole s'exporte.
Oui, donc vous savez, ce sont ces deux enclaves espagnoles en territoire marocain. Et c'est le magazine espagnol Ahora qui est allé regarder de près ce qui se passe dans ces enclaves et qui constate qu'en fait on est en train de reproduire exactement la même chose ailleurs en Europe, le même type de modèle qui a été conçu dans les années 90 par l'Espagne pour ces enclaves. Comme l'écrit le journaliste, clôture et refoulement, tels sont les emblèmes de la nouvelle Europe. Et donc le journaliste raconte un petit peu comment ça s'est organisé dans les années 90. D'abord une clôture construite par l'armée, ensuite grâce à des financements européens, on a rehaussé les grillages jusqu'à 6 mètres de haut, et tout ça pour clôturer complètement l'enclave de Ceuta sur 8 km et celle de Melilla sur 12 km. Et on est arrivé à des véritables fortifications, mais qui ont abouti à des moments à des drames, hein, puisque il y a eu plusieurs morts, c'était en 2005. Et alors justement, le journaliste évoque ces scènes dramatiques où une crise ouverte opposait l'Espagne et le Maroc sur les questions des barrières, et qui se reproduisent aujourd'hui, écrit le journaliste, le long des grillages de barbelés séparant la Hongrie, la Serbie ou la Grèce et la Macédoine, comme quoi l'exportation de ce modèle sécuritaire ne peut aboutir qu'aux mêmes incidents. En tout cas, c'est ce que conclut le journal espagnol.
Clément Beaune.
Non, ce qui est à la fois dramatique et intéressant dans toute la crise, c'est que on a longtemps pensé que l'Europe, c'était l'économie, le marché unique, la monnaie. Et on voit bien que quand notre destin s'intègre comme ça et quand les bouleversements extérieurs sont aussi forts, se pose la question d'avoir des politiques communes dans des domaines très souverains, hein, qu'on dit parfois de manière un peu technique régalien, la gestion des frontières, de l'immigration, et que de manière durable, il n'y a aucune autre politique efficace qu'une politique européenne.
Oui, mais là, on y arrive. Ces fameux gardes-frontières européens.
Mais ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure projet européen, c'est pas encore fait, ça mettra sans doute du temps. Mais le simple fait que ça paraisse possible et même souhaité, c'est quand même à l'échelle historique quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que la gestion de nos frontières va être européenne.
Pervenche Berès.
Moi, je veux réagir quand même un peu sur cette question de reconstruction de murs, hein, parce qu'à l'échelle de l'histoire européenne, on s'interrogeait tout à l'heure sur son état de santé. Une Europe où la grande victoire, ça a quand même été la chute d'un mur, qui aujourd'hui est le théâtre d'une reconstruction de murs un peu partout. Je pense que c'est pas un bon signal. Et donc, il faut qu'on arrive à collectivement mettre en place des politiques qui nous permettent d'apporter une réponse conforme à ce que nous sommes, hein. Parce que ce que nous sommes, nous, les Européens, c'est d'abord à l'échelle planétaire un endroit où on respecte la démocratie, les droits de la personne, et ces murs ne peuvent pas être une réponse durable.
Trouver une réponse durable, et puis on va parler un petit peu d'avenir. Allez, Eric, parlez-nous du Royaume-Uni, capitale, Londres, capitale du numérique.
Oui, c'est un article du Financial Times qui pousse une sorte de cocorico, puisque, il faut bien le dire, les start-up ont le vent en poupe de l'autre côté de la Manche. Le nombre d'entrepreneurs étrangers fondateurs ou dirigeants d'entreprises technologiques au Royaume-Uni est au plus haut depuis 10 ans, constate le quotidien, et qui nous donne un chiffre, hein, 32 500 start-up aujourd'hui au Royaume-Uni, dont, il faut bien le préciser, 7 400 étrangères. Donc voilà, le journaliste conclut, la Grande-Bretagne est devenue une destination très attrayante pour les entreprises numériques, alors que pendant des décennies, bien ce secteur technologique était plutôt un peu à la traîne. Alors bravo, mais prévient le journaliste, attention, gare au Brexit, il pourrait y avoir un retour de bâton, il pourrait y avoir des start-up partir en cas de Brexit.
Alors Eric, vous dites cocorico, mais là-bas on ne dit pas cocorico, ils disent comment, Nicolas, c'est vous qui avez cocodouledou?
Cocodidoudou.
Voilà, c'est ça, ça c'est comme ça que parle votre rooster, hein, votre coq. Alors, expliquez-nous.
Mais effectivement, les questions de technologie, des start-up, de l'Internet, de l'économie digitale est au cœur de la nouvelle commission qui est en place depuis un an et demi. Ce qui est intéressant ici, c'est que pendant qu'ici à Bruxelles, on essaye de comprendre comment créer un environnement où les start-up peuvent avoir du succès et croître et tout cela, on voit peut-être qu'à l'autre côté de la Manche, les Britanniques ont peut-être compris comment ça doit se faire. Après, reste à savoir si l'Europe, si le reste de l'Europe, peut-être grâce à Bruxelles, peut-être grâce aux efforts des capitaux nationaux, ait pu animer ou créer ou incentiviser la même chose.
Clément Beaune, dans le cabinet, le portefeuille ministériel du cabinet où vous travaillez, il y a numérique.
Tout à fait.
Est-ce qu'on fait un cocorico en France ?
On fait aussi un petit cocorico à Londres, c'était bien dit, parce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs milliers de ces entrepreneurs de start-up qui sont français.
Mais en cas de Brexit, ils se posent la question de savoir quel est leur avenir.
Ah ben, c'est bien la preuve que.
Rentrer en France.
C'est bien la preuve que même dans les domaines aussi mondiaux que le numérique, l'Europe, ça compte. Et il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs, plusieurs milliers d'entrepreneurs du numérique français à Londres. Donc c'est important aussi.
Pervenche Berès.
Non, c'est simplement de constater que beaucoup de ces jeunes qui sont partis au Royaume-Uni monter des start-up très high-tech avec toutes les compétences qu'ils ont acquises grâce au système scolaire français, maintenant s'interrogent de savoir s'il ne faut pas qu'ils reviennent en France.
Donc ça pourrait être une bonne nouvelle alors. C'est-à-dire que les forces vives parties pour le Royaume-Uni pourraient revenir
mais pour
en France.
Française, c'est pas mal d'avoir des Français au Royaume-Uni.
Bon, et en Suisse, qu'est-ce qui se passe, Eric Scholl? Le 4.0 se fait attendre.
Bah écoutez, la Suisse, justement, regarde un peu ce qui se passe ailleurs, et ça y est, la Suisse a adopté tout récemment une stratégie numérique. C'est le journal Le Temps qui décrit cette stratégie et qui décrit aussi où se situe aujourd'hui la Suisse. Cette stratégie, c'est très simple, elle s'appelle la Suisse numérique. Vous voyez, ils n'ont pas allé chercher très loin, 25 objectifs, 52 mesures de l'économie numérique, la cyberadministration, la mobilité intelligente, enfin, je vous en passe. Simplement, comme le constate le journal Le Temps, cette stratégie intervient avec 6 années de retard, et des années de 6 années de retard dans le terme numérique, ça fait beaucoup plus en réalité. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, dans le classement de l'OCDE, la Suisse est assez arrive vraiment plutôt en bas de peloton, très loin évidemment de la Grande-Bretagne dont on parlait il y a un instant, mais elle va rattraper certainement sur terre, et elle a un modèle, elle regarde de près ce qui se passe en France avec la French Tech.
Eh ben voilà, la France est un modèle, en tout cas pour les Suisses. Merci beaucoup, Eric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour cette nouvelle revue de presse tout à fait éclairante. Merci Pervenche Berès, chef de file des socialistes ici au Parlement européen, d'avoir été parmi nous. Merci Nicolas Hurst pour cette première, pour Politico. Chez nous, c'était parfait, votre français est remarquable, mais vous avez du mérite, non? Parce qu'en fait, vous êtes à moitié corse. Vous n'avez pas la petite pointe d'accent corse, hein, ça je ne l'ai pas trop entendu. Non mais pourquoi pas. Vous êtes d'où en Corse? Plutôt Ajaccio ou...
Près de Zonzao, Alta Rocca.
D'accord, très bien. Merci Clément Beaune, conseiller Europe de Emmanuel Macron, du ministre de l'économie. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, excellente fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.